Bonjour Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 7 décembre 1914, la bataille navale des Falklands. Le 2 novembre 1914, au large des côtes chiliennes, l'escadre de l'amiral allemand Maximilian von Spee coule le cuirassé anglais Good Hope et le croiseur Monmouth. Le désastre de Coronel, un port situé non loin de Concepción, au Chili, fait 1200 victimes britanniques. Un mois plus tard, le 7 décembre, les Anglais vengent cette défaite navale par la célèbre bataille des Falklands. Winston Churchill, premier lord de l'amirauté, ne peut tolérer l'affront de la défaite infligée par la marine allemande. Il nomme l'amiral Doventon Sturdee commandant d'une flotte destinée à l'Amérique du Sud. Elle comprend en particulier les croiseurs Invincible et Inflexible, tout juste sortis de réparation à Davenport. Ces deux bâtiments de guerre de 17 250 tonnes sont armés de 8 canons de 305 mm et de 16 canons de 102 mm. Leur vitesse est de 26 nœuds, seule leur protection cuirassée est faible. L'escadre de l'amiral Sturdee est également composée du cuirassé Carnarvon, datant de 1903, et des deux croiseurs Kent et Cornwall. Le 7 décembre matin, l'amiral von Spee approche des îles Falkland. Il désigne deux navires, le Gneisenau et le Nürnberg, pour partir en éclaireur et préparer un débarquement sur la pointe de Pembroke à l'entrée de Port Stanley. Leur premier objectif est la destruction des installations de la TSF. Il est 9h20. Lorsque les Allemands aperçoivent un croiseur à trois cheminées qui appareille le cap vers la sortie du port, les artilleries du Gneisenau et du Nürnberg décident de lui régler son compte. Il faut agir vite avant que les autres bâtiments anglais n'entrent en ligne. À 9h25, au moment où le Gneisenau s'apprête à ouvrir le feu, deux gros projectiles tombent à 800 yards, soit approximativement 730 mètres en arrière. Ils soulèvent des gerbes d'eau de 50 yards, soit environ 45 mètres de hauteur. Deuxième salve. Cette fois, les gros projectiles anglais tombent plus près encore. Assez curieusement, l'un d'eux ricoche sur l'eau et passe au-dessus de la plage en arrière du Gneisenau, ce qui ne manque pas d'impressionner l'équipage. C'est le croiseur Canopus, chargé de la protection des Falklands, qui a ouvert le feu. En rade de Port Stanley arrive la veille dans la matinée les deux croiseurs de bataille Invincible et Inflexible. Les croiseurs Glasgow, Kent, Bristol, Carnarvon, Cornwall et le croiseur auxiliaire Macedonia. Humphrey Packington, futur Lord Hampton, alors enseigne de vaisseau à bord du Carnarvon, relate les différentes étapes de la bataille. Je le cite. « Nous sortions d'un trou dans la terre, comme des guêpes de leur nid. La flotte était à la mer et la chasse était ouverte et c'était vraiment un beau matin de chasse. À toute vitesse, nous marchions labourant la mer bleue. À 13h30, les croiseurs légers ennemis se séparèrent des deux croiseurs lourds et filèrent vers le sud. Von Spee avait décidé de se sacrifier pour protéger leur fuite. Le Glasgow, le Kent et le Cornwall se lancèrent à leur poursuite. Bientôt, on ne vit à l'horizon que le haut de leur mât. Maintenant, le Chartreuse et le Gneisenau avaient ouvert le feu et leurs canons battaient l'eau avec fureur autour de nos croiseurs de bataille. Stanley s'éloigna pour augmenter la distance et garder ainsi l'avantage de son artillerie lourde. Nos croiseurs de bataille entrèrent en action avec leurs canons de 305 mm. Le Chartreuse avait disparu à jamais de la surface des flots à 16h20, entraînant dans la mort l'amiral von Spee et la quasi-totalité de ses officiers et de son équipage. Le Gneisenau coula à 18h02. Les croiseurs allemands en fuite s'égayaient. Le Leipzig et le Nürnberg restaient franchement en arrière, le Dresden loin devant. Le Cornwall se lançait à la poursuite du Leipzig, qui voyait rapidement s'évanouir toute chance de s'échapper. Le combat s'engagea d'abord à une grande distance. L'Allemand ripostait courageusement aux salves de projectiles anglais qui, à partir de 16h15, éclatèrent à son bord. Le Cornwall était lui-même durement touché, mais la supériorité anglaise était écrasante. Pendant deux longues heures, les projectiles anglais ravagèrent le pont, les superstructures, les cheminées du Leipzig. À 21h22, après un combat qui avait duré plus de 5 heures, dont les deux dernières avaient été atroces, le Leipzig en flammes coulait, pavillon haut, la température de l'eau était de 5 degrés Celsius. Quoique les Anglais, le combat terminé, eussent mis quelques canots à la mer, il n'y eut que peu de survivants. Le Nürnberg, poursuivi par le Kent, engagea un combat singulier avec le croiseur anglais. Sous le tir précis des canons du Kent, le Nürnberg ne fut bientôt qu'une masse qui brûlait. À 19h25, le Nürnberg s'inclinait doucement. On vit alors à la lueur des incendies un groupe de marins allemands debout sur le flanc déchiré du Nürnberg qui brandissait fièrement le pavillon de guerre de la marine allemande. Et le Nürnberg disparut. Un seul croiseur allemand, le Dresden, put s'échapper. Il alla se réfugier dans le labyrinthe des fjords désolés qui vont du Cap Horn à la sortie du détroit de Magellan sur le Pacifique. Les Allemands avaient perdu 2260 hommes au Falkland, dont l'amiral von Spee et ses deux fils. Je vous retrouve dans un instant pour la chronique littéraire, un jour trois livres, mais avant cela nous allons marquer une pause musicale. C'est Guy Béard qui nous accompagne en chanson dans cette émission Historama. Nous écoutons l'un de ses plus grands succès, L'eau vive.
Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets. Dans le laurier, le thym et le serpolet. Un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du rameau pour l'amener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts l'eau vive s'envolera. Petit bateau emporté par l'eau vive. Dans ses yeux, les jouvenceaux voguent à la dérive. Voguez, voguez, demain vous accosterez. L'eau vive n'est pas encore à marier. Pourtant un matin nouveau, à l'aube mon eau vive viendra battre son trousseau aux cailloux de la rive. Pleurez, pleurez, si je demeure esselé. Le ruisselet au large s'en est allé.
Historama, l'histoire d'un jour, se poursuit avec la chronique littéraire. Un jour, trois livres. Pour commencer, la Torah, commentée pour notre temps, c'est signé Harvey J. Fields et c'est édité aux éditions du Passeur. L'œuvre monumentale du rabbin Harvey J. Fields, décédé en 2014, est éditée dans sa version originale en anglais en 1990. Elle est aujourd'hui publiée en français grâce au précieux concours du Conseil rabbinique des communautés libérales francophones, Pauline Beb livre ici une éclairante préface qui précise les origines et la structure de la Torah. Elle s'intéresse également à son étude et surtout son commentaire qui est au cœur de ce remarquable ouvrage. Elle suggère d'ailleurs au lecteur de se faire acteur de cet exercice d'interprétation. L'introduction présente les grands commentateurs de l'enseignement divin, elle évoque aussi ses principaux trésors. Ensuite, l'auteur envisage successivement les cinq livres de la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Il porte son regard sur des thématiques variées, la médecine biblique, le bouc émissaire, la sainteté, les fêtes juives, en passant par les miracles, les droits de la femme ou le mariage et le divorce. Le livre est parsemé de cartouches qui approfondissent certaines notions. C'est un document essentiel qui, je l'espère, ornera bientôt votre bibliothèque. La Torah commentée pour notre temps de Harvey J. Fields aux éditions Le Passeur. Victor, mon père, c'est signé Richard Lanoux aux éditions Plomb. Régisseur de cinéma, puis scénariste pour la télévision et en particulier les épisodes de Louis la Brocante, Richard Lanoux évoque avec émotion le parcours de son père. Victor Lanoux est le fils de Richard Shalom Nataf, juif d'origine tunisienne, qui passe le plus clair de son temps au jeu. Arrêté lors de la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942, il échappe miraculeusement à la déportation. Sa mère, catholique normande et militante communiste, est conseillère municipale de Boulogne-Billancourt. Né le 18 juin 1936, Victor Lanoux passe la Seconde Guerre mondiale dans la Creuse. Il est hébergé par la famille Ribière au hameau de la Chenot, près de la chapelle Taillefer, village niché dans les monts de Guéret. L'enfance est difficile entre un père absent et une mère peu affectueuse qui chasse son fils âgé de 14 ans. L'adolescent déscolarisé se rapproche de sa grand-mère maternelle. Après mille métiers et mille misères, il se tourne vers la comédie, tout d'abord dans un duo comique avec Pierre Richard, puis au cinéma. Les débuts sont difficiles, il est remarqué en 1972 dans l'affaire Dominici de Claude Bernard Aubert. Viennent ensuite les films d'Yves Robert, Un éléphant, ça trompe énormément, Nous irons tous au paradis ou Le bal des casse-pieds. Il signe également des pièces de théâtre, il fonde avec Alain Terzian la société de production Les films de la Drouette et à partir de 1998, il tourne la série Louis la Brocante diffusée sur France 3. Richard Lanoux s'attarde sur les amitiés de son père avec le poète René Char, établi dans le Vaucluse, à Lille-sur-la-Sorgue, et l'acteur Sim. Il évoque ses conquêtes féminines et en particulier ses 13 années partagées avec Marie-Josée Natte. Dans ce livre, les anecdotes sont nombreuses. Ami avec Edgar Faure, Victor Lanoux lui achète sa célèbre Mercedes rouge pompier. Affaibli par la maladie cardiaque, il décède à Royan le 4 mai 2017. Il reste l'une des figures marquantes et touchantes du cinéma français. Victor, mon père, c'est publié aux éditions Plomb et c'est signé Richard Lanoux. Je termine cette chronique par un autre ouvrage consacré au cinéma, Michel Audiard, c'est signé Philippe Lombard aux éditions Hugo Images. Publié à l'occasion du centenaire de la naissance du plus célèbre dialoguiste du cinéma français, cet ouvrage à la riche illustration évoque le parcours de Michel Audiard. Originaire du 14e arrondissement de Paris, où il voit le jour le 15 mai 1920, il consacre le langage populaire. Ses répliques prononcées par Jean Gabin, Lino Ventura ou Jean-Paul Belmondo sont parmi les plus célèbres. Elles sont d'anthologie. De père inconnu et de mère indifférente, Michel Audiard est élevé par son parrain à l'ombre du parc Montsouris. Passionné de cyclisme, il revendique à l'adolescence le vol de plusieurs centaines de vélos. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il débute dans le journalisme. Dès 1949, il écrit pour le cinéma. Il signe le scénario et les dialogues de « Mission à Tanger » réalisé par André Unbel, qu'il retrouve en 1953 pour les Trois Mousquetaires qui rassemblent plus de 5 millions de spectateurs. Deux ans plus tard, il entame sa collaboration fructueuse avec Jean Gabin dans Gasoil de Gilles Grangier. En 1961, il adapte au cinéma pour Denis de la Patellière Un taxi pour Tobrouk avec Charles Aznavour et Lino Ventura qu'il retrouve en compagnie de Bernard Blier et Francis Blanche dans Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner, sorti en 1963. L'année suivante, il accompagne ce même trio d'acteurs dans Les Barbouzes. En 1968, il passe derrière la caméra pour « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ». Jusqu'en 1974, il réalise 9 films, aux titres souvent savoureux. Ensuite, Michel Audiard reprend la plume pour Jean-Paul Belmondo. De nombreux films populaires voient ainsi le jour. Flic ou voyou en 1978, Le Guignolo en 1980, Le Professionnel en 1981, Le Marginal en 1983 et Les Morfalous en 1984. Michel Audiard nous laisse aussi 11 romans, dont le dernier, Le Chant du départ, publié à titre posthume en 2017. Il s'éteint à Dourdan le 28 juillet 1985. Michel Audiard de Philippe Lombard s'est publié aux éditions Hugo Images. Ainsi s'achève cette chronique et par là même cette émission Historama. Merci à Lucas qui l'a réalisé et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures historiques. Nous nous séparons en chanson avec toujours Guy Béard. Nous écoutons Le Jardin d'Elvire.
Dans le jardin d'Elvire, on a vu un navire, une jolie corvette au milieu des violettes. Dans la vigne sauvage, 100 hommes d'équipage, les petits pois montaient. Les matelots chantaient. Il y a 100 marins dans mon jardin. Le vent souffle sur les buissons, serrer le volant d'Artimon. Le vent mollit sur l'aubépine, gabier larguer la brigantine.
ohé, ohé du bateau. L'amour m'est venu trop tôt. Elvire a son jardin, descend de grand matin. Expliquez-moi pourquoi ce navire est chez moi. Sur le pont réuni, l'équipage lui dit: on n'en sait rien du tout, mais comment allez-vous?
Il y a 100 marins dans mon jardin. Le vent souffle sur les buissons, serré le volant d'Artimon. Le vent mollit sur l'aubépine, cabiais largué la brigantine. Ohé, ohé du bateau. L'amour m'est venu trop tôt. La belle étant partie, s'en revint à midi. Plus de navire en vue, tout avait disparu. Mais dans la giroflée de celle toute givrée, trois étoiles de mer jusqu'au soir fredonnèrent.
We'll be right back.